un podcast France Culture.
On va dire que c'est avec science, avec Alexandra Delbeau. Bonjour Alexandra.
On va dire ça, bonjour Guillaume.
Ce matin, on va s'intéresser donc à la rayonisation de l'univers.
Oui, c'est l'une des transitions les plus importantes de l'histoire de l'univers, parce que c'est celle qui l'a rendu transparent. Autour de 380 000 ans après le Big Bang, le gaz ionisé se refroidit, devient neutre, et ses atomes d'hydrogène empêchent la lumière de traverser. En cosmologie, on parle des âges sombres de l'univers, tout n'est qu'un épais brouillard. Puis, progressivement, les atomes d'hydrogène vont perdre des électrons dans cette bouillie primordiale. Et c'est ça l'ionisation, quand un atome devient un ion chargé et les ions hydrogène, contrairement aux atomes, laissent passer la lumière. Seulement, les électrons ne s'arrachent pas comme ça tout seuls. Les atomes ne deviennent pas ions sans un petit coup de pouce. Il faut un processus suffisamment énergétique pour le faire, mais lequel? Jusqu'à présent, on ne manquait pas d'hypothèses, mais d'un outil dans les bonnes longueurs d'onde pour bien voir. Akimatek est chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et auteur principal de cette étude parue dans Nature.
Déjà avec les observations du fond diffus cosmologique, on avait déjà une idée de la période de quand est-ce que s'est passée cette rayonisation. Et ensuite, en observant des sources très brillantes, en regardant les spectres d'absorption, on avait une idée de la transparence, en quelque sorte, de l'univers à cette époque-là. Donc c'est comme ça qu'on a tracé à peu près le processus de rayonisation entre 500 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. La seule question qui persistait, c'était quelles étaient ces sources de rayonisation. Et puis on avait plusieurs pistes, hein. On avait des pistes de quasars, par exemple, qui sont ces trous noirs supermassifs, qui pouvaient effectivement émettre un rayonnement très énergétique. Il y avait également les galaxies très massives, qui pouvaient aussi émettre un rayonnement suffisant. Le meilleur candidat, c'était les galaxies de petite masse, tout simplement parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que les galaxies massives. Seul problème, même avec le télescope le plus puissant à l'époque, qui était le Hubble Space Telescope, on pouvait pas vraiment étudier ces galaxies à l'époque de la rayonisation, parce que Hubble observait dans le domaine visible, et la lumière des galaxies distantes est décalée vers l'infrarouge.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le James Webb Space Telescope a été construit, pour aller regarder de plus près ces petites galaxies de l'époque de la rayonisation. Mais il ne suffit pas d'avoir le bon outil pour aller voir aussi loin, puisque ces galaxies sont extrêmement éloignées de nous, elles sont aussi de très faible luminosité, de trop faible luminosité même pour le fabuleux James Webb, et donc il a fallu ruser. Dans cette étude, ces scientifiques se sont aidés d'une lentille gravitationnelle.
Alors il ne s'agit pas d'une lentille en dur, comme dans un microscope ou un télescope, mais d'un effet, c'est ça ?
Exactement, un effet est l'une des prédictions de la relativité d'Einstein, la gravitation dévie la lumière. En se plaçant dans la visée d'un amas de galaxies très massives, nommé Hubble 2744, on peut créer une loupe cosmique, déformer l'espace-temps et donc littéralement grossir des objets très distants. C'est comme si on alignait deux télescopes, le James Webb et un télescope naturel. Résultat, les coupables de la rayonisation sont bien les galaxies naines.
L'un des obstacles avant, c'était qu'on observait des galaxies proches en se disant qu'elles pouvaient être les mêmes que les galaxies à l'époque de la rayonisation, sauf que maintenant avec le James Webb, on observe les galaxies mêmes qui sont responsables de cette rayonisation. On a confirmé que ces galaxies étaient à peu près 100 fois plus nombreuses que les galaxies massives. Et ensuite, en termes de propriétés, on a mesuré leur pouvoir ionisant, et donc cette lumière, la quantité de lumière ionisante qui sort de ces galaxies est 4 fois supérieure à ce qu'on pensait pour les galaxies normales, hein, ou plus massives. Et donc ça, c'est principalement grâce au type d'étoiles, hein, la population stellaire que ces galaxies abritent. C'est des étoiles extrêmement jeunes et massives de quelques millions d'années. Et ces étoiles vont brûler très rapidement leur carburant, mais en même temps émettre beaucoup, beaucoup de rayonnements ionisants. Et quand on combine le nombre de ces galaxies et la quantité de lumière ionisante qu'elles émettent, eh ben, le total est suffisant pour rayoniser l'univers.
Une hypothèse qui se confirme donc à condition que cet échantillon d'objets célestes reflète bien la distribution du bestiaire galactique. Et c'est donc la prochaine étape, observer d'autres parties du ciel pour confirmer que c'est bien l'illumination de galaxies naines qui seule a permis de rayoniser l'univers. Un autre programme d'observation avec le James Webb fera usage cet été d'une autre lentille gravitationnelle avec une exposition très longue pour étudier des galaxies encore moins lumineuses et l'objectif objectif est tout aussi excitant, capter la lumière des toutes premières étoiles créées dans l'univers. Et c'est aussi dans cette très petite galaxie qu'il faudra rechercher.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Alexandra Delbo, c'était avec Science.